La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Architecture.
Van de Voorde, oui.
Réouverture du musée du folklore à Moucron.
La raison d'être, alors il faut quand même remonter à l'origine, c'est-à-dire en 1936.
Architecture.
Et à une fois j'entends... Je dis qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
Une maladie honteuse, donc.
Vous allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Avec Véronique Van de Voorde, conservatrice.
Interpelle les responsables de la ville pour créer une bibliothèque communale où se trouveraient aussi quelques vitrines avec des objets du passé, parce que pour Moucron, c'est une période importante. Moucron était un village au 19e siècle. Il s'est développé, mais de façon très rapide, suite aux migrations flamandes, ici dans la région. Mais Moucron était aussi en Flandre jusqu'en 1963. Et tous ces ouvriers flamands vont chercher du travail dans les usines textiles du nord de la France.
Réouverture du musée du folklore à Moucron.
Beaucoup s'installent sur l'île Roubaix-Tourcoing, mais aussi des milliers d'ouvriers s'installent sur Moucron. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le village perd un peu son caractère, et puis bon, la ville est en pleine mutation aussi après la Première Guerre mondiale. Ce qui fait qu'il y a un peu une nostalgie, voilà, du temps qui passe, des choses qui se perdent. Et c'est important de conserver ces traces du passé. Et voilà la démarche de Bléoma, justement, pour créer un musée de folklore au sein de la ville de Moucron.
Avec Véronique Van de Voorde, conservatrice. Thierry de Keuper, architecte, agence V+. Hervé Boutet, scénographe, agence Projectile. Simon Boutevin, artiste, ainsi que Pierre Henrion et Chantal Dassonville.
La Deuxième Guerre arrive, ce qui fait que le projet sera retardé et le musée est inauguré en 1953. Il occupe à ce moment-là un petit café qui se trouve derrière l'hôtel de ville de Moucron. Mais très rapidement, les dons affluent de la population parce que régulièrement, il y a des articles dans la presse locale en disant « Ne jetez pas justement les objets que vous n'utilisez plus, amenez-les au musée de folklore. » Des milliers de dons arrivent et finalement, ben, c'est comme ça que ce musée a pris naissance grâce à la population de Moucron et grâce à Léon Mas qui va mourir en 1956, donc peu de temps après. Léon Mas, c'était quand même quelqu'un qui avait un profil professionnel parce qu'il était très en contact avec le musée de la vie wallonne. Il était aussi enquêteur justement pour les enquêtes d'ethnologie sur la Flandre wallonne, alors, puisqu'on faisait partie de la Flandre wallonne toujours. Il faisait ses enquêtes pour le musée de la vie wallonne. Il était ami avec Jean Host, avec je vais dire tous les Liégeois qui étaient vraiment là le berceau des musées de folklore. Et il y avait déjà des inventaires, il y avait déjà une vision comme ça. Très pertinente finalement de ce qu'est un musée de folklore aussi qui vit avec et pour sa population.
Architecture, réouverture du musée du folklore à Moucron par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Les collections affluent toujours et on en a encore toujours beaucoup, beaucoup. L'année dernière, on en a eu plus de 2500. Ce patrimoine vivant, ce patrimoine oral, parce qu'en plus des collections, on a aussi un fonds documentaire très important, plus de 50 000 documents, et des témoignages oraux, plus 7500, 7600 là, pour le moment, qui sont collectés donc, depuis 1953.
Oui, cette salle d'introduction, c'est un vrai... outil, démonstration, ce que c'est que ce nouveau musée.
Il n'y a pas de chef-d'œuvre hein. Dans ce musée, il n'y a pas d'œuvre d'art. Ce sont des objets de la vie quotidienne qui vont expliquer justement comment les habitants vivaient dans une région un peu particulière, puisqu'on est une région frontalière, juste à la frontière de la Flandre, juste à la frontière de la France. Comme je disais, Moucron faisait partie de la Flandre jusqu'en 1963. Moucron est une ville d'expression francophone depuis toujours, et puis ce sont les aléas de l'histoire qui ont fait en sorte qu'on était rattaché au comté de Flandre, et que finalement, quand on a été sous domination française en 1794, on nous a rattaché aussi au département de la Lys, donc future veut dire province de Flandre.
En fait, on est face à une espèce de grand cabinet de curiosité.
Hervé Boutet.
On regarde des objets qui sont très beaux, on ne comprend pas le premier abord. Mais en fait, ils sont tous organisés comme le musée va le montrer par la suite.
Avec nos voisins flamands, avec nos voisins français, on a une histoire commune. Comme je disais, il y a aussi énormément d'habitants qui sont partis habiter dans le nord de la France pour aller travailler dans les usines textiles. Forcément, ils se sont mariés, ils ont fait une vie, parfois ils reviennent par ici. Nos écoles à Moucron sont très fréquentées par les Français, par exemple. Beaucoup de Moucronois vont faire leurs études en Flandre, donc le commerce aussi, beaucoup d'échanges, la fraude, il y a une section ici qui est consacrée à la fraude.
On a des regroupements historiques, on a des regroupements thématiques, on a des objets insolites, et en fait on a mis en place un dispositif interactif, c'est-à-dire qu'on a une table tactile où on interroge les objets qui permet d'allumer des regroupements. Donc tous les objets qui sont, là j'ai cliqué sur le transfrontalier, tous les objets transfrontaliers s'allument directement grâce à un vidéoprojecteur qui nous sert de lampe. Donc c'est un vrai outil pédagogique qui permet au groupe de se dire qu'est-ce qu'on va voir, et d'avoir peut-être un animateur qui prend la main sur l'outil, ou voir même le public individuel.
La fraude n'existe plus depuis l'ouverture des frontières, mais c'est normal, quand on va chercher chez le voisin ce qui est mieux que chez nous, ce qui est plus avantageux économiquement parlant. Et les collections, collections mobilières sont les témoins tangibles de ça, mais sans justement les témoignages oraux, finalement elles n'ont pas ce supplément d'âme.
C'est une pièce un peu déroutante qui introduit finalement toute la réflexion qui est menée par la suite dans le musée. Sur montrer pourquoi tel objet est à peine dépoussiéré, pourquoi tel objet, il y a encore de la laine dessus, alors qu'on aurait pu très bien le nettoyer.
Non, pas ce supplément d'âme. Je peux vous montrer par exemple un grillard à café qu'on peut retrouver dans tous les musées d'ethnologie de Belgique et de France. Mais celui qui est exposé ici, il a une histoire particulière, parce que dans toutes les maisons qui étaient situées à la frontière avec la France dans le quartier du Tuquet, tous les habitants torréfiaient le café pour les vendre aux Français, parce que juste après la guerre, le café était encore rationné en France, mais plus en Belgique. Et puis les Français venaient s'approvisionner en Belgique. Et puis ils disent aussi que le café est le meilleur chez nous, chez eux. Donc avec ces témoignages oraux que l'on collecte depuis autant d'années, finalement ces histoires aussi singularisent tous les objets qui sont ici, des objets qui sont peut-être communs parce qu'on les retrouvait dans de nombreux foyers, comme je disais, de Belgique et de France.
Donc tous ces objets-là sont explicités dans cet outil de médiation.
Le troisième déménagement pour le musée depuis 1953. Il était d'abord dans un café situé derrière l'hôtel de ville de Moucron. Il a déménagé en 1978 suite à la fusion des communes, parce que donc Moucron s'est rattaché avec les villages environnants, et puis il fallait agrandir le corps de police. Et donc les locaux occupés par le musée de Moucron étaient intéressants pour loger le corps de police agrandi suite à cette fusion. Et donc on nous a déplacés dans la rue des Brasseurs, dans la maison du directeur de l'école communale du centre.
On n'a pas voulu mettre trop de multimédia, c'était très tentant. Mais le multimédia, on l'a voulu aux endroits où il nous semblait signifiant, c'est-à-dire ici. Une carte interactive qui montre la question du transfrontalier entre les trois frontières, et puis ces trois frontières qui ont évolué dans l'histoire. Donc si on ne le présente que sur de la carte graphique imprimée, ça devient un peu rébarbatif. Donc l'écran nous sert à ça. Et puis après, plein de petits écrans qui nous montrent les gestes.
Donc ça, c'était un premier déménagement. avec déjà un nouveau changement de scénographie, parce que dans le premier musée, comme je disais, les gens ramenaient des dons, et puis on les mettait comme ça un peu plic-ploc au fur et à mesure de leurs acquisitions. Dans les vitrines, il y avait de grandes étiquettes, dons de monsieur, madame, un tel. Donc l'important, c'était ça aussi. Puis on a commencé quand même à la regrouper un peu par thématique, mais pas vraiment. Quand je vois les photos, finalement, de ce premier musée, c'est vraiment un cabinet de curiosité, une sorte de Capharnaüm, voilà. L'important, c'était de sauvegarder tous ces objets qui étaient donnés. Donc en 1980, on refait quand même la scénographie. Là, c'était fort axé sur les ensembles reconstitués, à la mode à l'époque. L'ancien café, l'ancienne maison, l'ancienne cuisine, la chambre à coucher, l'école, la saboterie, voilà, et puis des vitrines thématiques aussi. En 2008, que germe l'idée quand même de rénover ce musée parce qu'il était beaucoup trop petit. Pour les collections, c'est bien, mais un musée, c'est pas seulement présenter comme ça des collections en vitrine, il faut le faire vivre aussi, toutes des activités pédagogiques autour d'un musée. Ça ne sert à rien, sinon, de laisser les objets croupir sur des étagères ou des vitrines si on ne communique pas, finalement, ce patrimoine aux jeunes générations.
Puisque le geste, finalement, est associé à l'objet. Et on peut se poser la question de comment on utilise cet objet. On a essayé de donner quelques réponses dans des tout petits écrans qui sont juste là pour donner une explication animée. Et à la fin, on a juste une petite tablette tactile qui nous permet d'écouter du patrimoine immatériel, puisque ce musée-là a aussi cette particularité, c'est qu'ils ont une collection d'enregistrements, un fonds documentaire qui est très important et qui doit s'enrichir avec des accents.
Alors, jusque dans les années 80, ça fonctionnait, parce que la plupart des habitants avait connu ces temps anciens, avait un rapport affectif avec ces objets, ça fonctionnait. Et puis maintenant, pour les jeunes générations, voilà, il n'y a plus ce lien, il n'y a plus cette connaissance. Donc il faut faire vivre un musée totalement différemment aujourd'hui. Il faut le rendre vivant, il faut le rendre novateur, il faut le rendre pertinent. Et dans les locaux là-bas, ce n'était pas possible, pour tout vous dire. Bon, c'était une maison domestique, pour tout vous dire. Il y avait une toilette pour tout le personnel du musée, on était 4-5 à l'époque, et pour tous les visiteurs. Donc vous imaginez un peu quand un autocar débarquait avec 50 seniors qui venaient visiter le musée avec une seule toilette. Il fallait une heure pour dire d'arriver aux sanitaires, quoi. C'était juste pas possible. Et je vous raconte ça parce que c'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait en sorte que je disais, mais c'est plus possible, quoi.
Thierry de Cuyp.
Il y a plusieurs gestes, mais disons, il y a ce geste qui est plutôt un geste stratégique de déplacer, disons, le musée à proximité, justement, de cet espace qui était peu connu. Ça, c'est un premier geste.
Les gens devaient sonner un parlophone pour pouvoir visiter le musée. Toutes des choses aberrantes comme ça. Et finalement, on avait proposé une petite extension au bâtiment, à la maison du directeur, qui améliorait déjà les choses. Mais au même moment, le musée est reconnu et subventionné par la Fédération Hallé-Bruxelles en catégorie C. Donc, j'en profite pour aller aussi avec le dossier d'infrastructure au ministère. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, c'est peut-être pas la bonne solution. Celle que vous pensez, est-ce que pour vous, c'est la solution? Et j'ai dit, non, il manque des locaux pédagogiques, voilà, il manque plein de choses, il manque une salle d'exposition temporaire. Il faut refaire complètement la scénographie, parce qu'elle devient un peu désuète, là, pour le moment. Donc, il faut refaire tout ça, quoi. Il faut refaire la sécurité aussi, les portes de secours, les éclairages, enfin. Et c'est comme ça qu'on a été engagé par Chantal Dassonville, architecte directrice de la cellule architecture, à rentrer vraiment un vrai projet théorique, ambitieux, qui allait peut-être pas se réaliser, mais il fallait le penser dans sa globalité et faire en sorte que ça soit un musée, je vais dire, qui vit vraiment dans son époque, pour la société, avec les enjeux d'un musée du 21e siècle, puisque on était en 2008-2010 à l'époque.
L'autre, c'est de donner une forme au bâtiment très allongé, qui fait qu'à la fois il s'inscrit dans une venelle qui est existante et qui traverse tout stylo, mais qui était en cul-de-sac et qui tout à coup là lui permet d'accéder à l'intérieur d'îlot. Donc il longe cette venelle ou il la prolonge, disons. C'est aussi un geste qui essaye d'être attentif aux architectures assez communes et assez quotidiennes de ce type d'environnement ici à Moucron. Et donc il reprend les largeurs des bâtiments industriels qu'il jouxte, qui reprend la matérialité des bâtiments qui le jouxte, c'est un bâtiment en briques, qui reprend même dans les proportions des pièces qu'on a mis en place, les dimensions très domestiques. Et donc c'est toute une série de gestes qui ne sont pas ce grand geste architectural fort qu'on attend souvent de l'architecture contemporaine et qui essaye de se démarquer, mais c'est plutôt un geste qui essaye de tisser des liens, un maximum de liens avec son contexte et son environnement.
Il a fallu 10 ans pour concrétiser. Donc voilà, le rêve est devenu réalité. On n'y croyait pas trop. On s'est dit, bon, on va faire des dossiers, on va les monter, on verra.
De donner de la force à ce qui est là et qui, quand on le regarde comme ça, paraît assez anodin. Et donc la proposition architecturale contemporaine, c'est plutôt de donner du relief à ce qui existe. Ça permet de le regarder avec plus d'attention.
On a avancé petit à petit. C'est vrai que si les subventions des infrastructures culturelles n'arrivaient pas, la ville n'aurait pas non plus, je vais dire, embrayé dans les moyens financiers qui étaient nécessaires pour faire ce projet. Et puis de fil en aiguille, bon, tout le monde s'y est mis. Donc on a fait un marché de services d'architecture. Et voilà, ça c'est une aventure formidable.
Toutes les pièces sont différentes. On a que des histoires différentes et à chaque fois les présentations sont différentes. Et on a voulu travailler vraiment cet exercice de se dire qu'on a... chaque pièce est une surprise.
Architecture, réouverture du musée du folklore à Moucron.
Elles ont toutes la même taille, hein, toutes la même surface, elles n'ont pas toutes le même volume et elles racontent pas toutes la même histoire. Et en fait, il y a toute cette adéquation entre architecture, exposition, elles ont toutes une histoire.
Le bâtiment, il prolonge, ou il se met dans le prolongement d'un bâtiment industriel qui, je crois, était une ancienne bonneterie. La région est remplie, et les intérieurs d'îlots à Moucron sont remplis d'usines qui étaient liées au tissu, à la production de tissu. Donc là, je crois que c'est une ancienne bonneterie qui était partiellement utilisée par le musée. Ils avaient leur bureau dans des conditions tout à fait précaires, partiellement utilisée par l'Académie de musique. Et je crois que maintenant, le projet, il a aussi libéré des locaux dans cet espace-là et qui fait que, à terme, je pense que l'Académie de musique va pouvoir disposer de locaux à plus grande échelle. Et c'est une phase à venir, disons, du projet, puisque autour de l'ancien musée, qui est une sorte d'ancienne maison d'habitation à rue, elle doit être encore rénovée. L'espace public au cœur de l'académie doit être aussi rénové dans une phase à venir. Je pense que là, on aura plus ou moins fait la boucle d'une sorte de restructuration de tout le cœur de ce grand îlot.
Je suis Hervé Boutet de l'atelier Projectile à Paris. Prenons cette pièce-là, l'habitat bourgeois. C'est en comparaison avec une pièce qu'on pourrait aller voir tout à l'heure sur l'habitat modeste.
Réouverture du musée du folklore à Moucron.
La bourgeoisie qui s'est installée à Moucron se diffère du peuple avec son opulence, sa capacité d'achat et d'achat de nouveautés. Là, on se retrouve confronté à notre situation actuelle où on a une offre pléthorique d'objets qu'on peut acheter et la notion d'obsolescence, finalement. Et en fait, on se retrouve dans cette pièce où on a voulu faire une accumulation d'objets. On les a regroupés thématiquement et on les a juste exposés en accumulation avec cette étagère de collection d'appareils photo ou de téléphones ou de postes radio, d'horloges différentes. Et la configuration de cette pièce, travaillée avec les architectes, on a voulu une pièce haute pour magnifier justement l'habitat bourgeois qui se différenciait vraiment du reste des autres architectures. Et donc cette pièce-là est vraiment élancée et on la remplit avec aussi des tableaux de ce côté-là, avec un accrochage 19e où on remplit de portraits de ces augustes personnes.
Thierry Descaper, la directrice, évoque le cahier de charge. Je retiens 3 faits. Salle d'exposition permanente, temporaire et kilomètres de rayonnage de documentation.
La quantité de matériel qu'a accumulé le musée le long de toute sa vie, donc presque une soixantaine d'années, je pense, est vraiment gigantesque. Et le musée, précédemment, dans sa configuration précédente, ressemblait presque à une sorte de grande brocante, j'ai envie de dire, avec un principe d'accumulation presque sans fin de tout ce matériel. Et donc, le nouveau musée, il a permis, disons, de donner un peu de hiérarchie ou d'ordre à cette énorme collection. Et donc, il a été restructuré dans une collection, en effet, permanente, où il y a eu une sélection assez drastique des pièces les plus parlantes.
Donc, cette pièce-là est vraiment chargée. Elle peut, effectivement, ressembler à une salle des ventes. Mais on a vraiment choisi de la mettre en opposition avec les autres pièces qu'on voit dans le musée.
Et les plus parlantes, ce n'est pas nécessairement les plus belles, mais celles avec lesquelles il y avait moyen de faire une narration la plus complète et la plus intéressante de ces questions, en effet, de Moucron, de vie transfrontalière. Il y a une partie qui n'existait pas, qui est un lieu qui permet des expos temporaires, parce qu'on sait que la question de folklore ou de patrimoine quotidien, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence et un musée a besoin de ce type d'exposition qui actualise quelque part soit les pièces existantes, soit qui accueille d'autres expositions. Et en effet, sous le musée, on ne le voit pas, c'est une partie enterrée, la moitié du bâtiment sert à accueillir cet archivage qui est le fond du musée et le principe est qu'on puisse aller repiocher dans ces archives pour activer à la fois l'exposition permanente et l'exposition temporaire selon un programme classique, disons, événementiel.
Allons à l'habitat modeste. On passe par ce couloir qui met en tension les objets du quotidien, aussi bien bourgeois que modeste, qui racontent différentes histoires, mais ici, cette pièce-là, est consacrée effectivement à l'habitat modeste. Elle a une configuration vraiment particulière. Aussi, on a beaucoup travaillé avec V+, les architectes, pour lui donner une configuration spécifique dans son installation. Ce qui marque quand on rentre, c'est ce métier à tisser qui est fonctionnel et qui est en contrebas. On a creusé, on a fait une fosse. Pourquoi ? Parce que le métier à tisser était toujours entre la cave et la pièce principale pour des questions d'humidité. Et pour éviter que le fil casse. Et donc on a voulu l'installer dans une situation où on s'interroge pourquoi ce métier à tisser est mis en contrebas. Parallèlement à ça, l'habitat modeste, c'était souvent une pièce unique ou une pièce avec une mezzanine qu'on a installée ici, la chambre à coucher en haut, les objets de chambre à coucher en haut et les objets du quotidien sont ici. Et un autre élément qui est important, c'est ces grandes baies vitrées. Les maisons étaient petites et en fait les gens vivaient beaucoup dehors et donc on a voulu mettre cette pièce en relation avec l'extérieur. D'ailleurs c'est la seule pièce qui sort du volume architectural linéaire. Dans le travail qui va être fait avec les écoles notamment et les équipes pédagogiques du musée, à cet endroit-là, devant cette grande baie vitrée, sera organisé un jardin potager qui fera écho justement à cette question d'habitat. Donc on est à chaque fois dans un lien entre objet, architecture, situation, configuration. Et ce qu'on a voulu, nous aussi, au niveau de la scénographie, c'est de ne pas magnifier les objets. Ça a été toute cette tension qu'on a voulu mettre en place, d'essayer d'être le plus simple possible. Un minimum de soclage, bien que tous les objets sont installé, posé, réfléchi, tout a été prépensé, travaillé sur les plans. Les choses sont toutes à leur place. Elles peuvent changer. On est dans un système totalement réversible. Aujourd'hui, si c'est une composition comme celle-ci, demain, le musée pourra faire ce qu'il voudra. Et tout le propos du musée est aussi organisé dans cette optique. Même les cloisons du musée sont totalement réversibles. Si dans 15 ans, 20 ans, ce musée a une autre destination, on peut entièrement tout dégager et on retrouvera une seule grande pièce totalement libre de tout élément qu'on aura installé.
Thierry de Kuyper.
Même si c'est un bâtiment relativement petit et modeste, est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à gérer ou à tenir pour des des communes ou des villes de petite taille. Et donc notre rôle d'architecte, il doit aller un peu plus loin que simplement faire le bâtiment et contrôler un chantier. Il doit aussi quelque part d'accompagner dans ce processus, d'expliquer ce processus, qui est un processus complexe, parce que inévitablement un bâtiment, ça a une dimension de complexité, ça implique beaucoup de gens à plein de niveaux, ça implique de l'économie, ça implique de l'urbanisme, ça implique des décisions qui vont jusqu'au choix en effet muséographique et scénographique, donc ça, c'est un collectif extrêmement complexe et donc qui demande toute une sorte de subtilité de négociation pour arriver à mener ce type de projet jusqu'au bout, quoi. C'est un sujet extrêmement délicat, je trouve, cette question du patrimoine, du folklore. On peut être viré dans quelque chose qui est extrêmement nostalgique, regarder son passé avec beaucoup de condescendance et un peu de larmes à l'œil. On peut être extrêmement caricaturaux et réduire ces objets qui sont des objets quotidiens, les aplatir complètement de leur fond un peu sociétal ou politique. Et donc, quand on fait un bâtiment neuf autour de ces questions-là, il faut trouver une sorte de vocabulaire ou de manière d'aborder ces questions qui soit en effet ni un pastiche, parce que beaucoup de musées du folklore sont dans des bâtiments historiques, donc on ne peut pas ni faire un pastiche, ni faire une sorte d'acte violent d'architecture contemporaine qui utiliserait finalement le prétexte du musée du folklore pour faire une sorte d'affirmation d'un architecte. Et donc on a essayé de trouver une sorte d'architecture qui puisse à la fois parler à une architecture contemporaine, horizontale, avec des lignes assez claires, un peu presque méditerranéennes, mais en même temps dans sa matérialité qui évoque les constructions traditionnelles en briques de Moucron, qui dans ses proportions passe d'espaces très ouverts, très généreux, à d'autres où on retrouve une sorte de sensation un peu d'intimité dans l'exposition permanente. Et donc c'est ici de trouver une sorte de fil pour renouer des liens, c'est ça que je crois le but de ce type d'architecture contemporaine attentive à son contexte, c'est de nouer un maximum de liens et d'être surtout attentive, disons, et respectueuse de la mission qui est en effet là de soutenir cette sorte de valorisation d'un patrimoine local.
On voit des briques neuves et des briques anciennes appareillées de manière aléatoire, le tout est peint en blanc et de temps en temps, si on avance encore un peu, on va croiser une brique émaillée avec un numéro. Ici, on doit être devant le numéro 1 ou 2, je crois, qui correspond à l'usine Flamme, ancienne usine textile de Moucron.
Et puis, il y a une dimension comme ça, plastique, que moi, je trouve assez extraordinaire, puisque une façade qui aurait pu être une simple façade de briques blanches, et qui est toujours, quand on la voit, une façade de briques badigeonnées en blanche, elle prend une sorte de dimension ou d'épaisseur narrative beaucoup plus grande que si nous, en tant qu'architectes, on avait dû choisir entre quatre briques blanches.
Donc en fait, ça a été ma mission depuis 2012. J'allais régulièrement me rendre au comptoir d'urbanisme de la ville de Moucron, éplucher la liste des permis de démolir, en discussion avec l'équipe du musée, à voir s'il y avait un intérêt patrimonial à aller voir et documenter ces lieux qui allaient disparaître. Je me rendais sur les sites, je les photographiais, je prenais quelques notes et je négociais avec le démolisseur ou les architectes la récupération de semi-remorques de gravats qui étaient vidés en Flandre auprès d'une entreprise qui reconditionnait ces briques pour nous les retransmettre et les intégrer finalement dans les murs du musée.
Simon Boutevin.
Donc on a comme ça 8 provenances, 8 sources. Il y a 2 usines de mémoire, des maisons ouvrières, une villa bourgeoise, un cinéma, un couvent, une ferme. Donc différentes typologies de construction qui se retrouvent dans les murs du musée. Parce que c'était là l'idée que les briques qui font les murs de ce musée aient un peu le même statut que les objets qu'il contient. Parmi les outils des sabotiers, les autres objets témoins du musée, ces briques sont aussi comme ça, inscrites à l'inventaire des collections du musée comme des objets témoins.
Quand on voit la façade, on voit une façade de briques blanches, mais tout à coup, et c'est ça la qualité de son travail conceptuel, c'est qu'on se projette quelque part dans les bâtiments qui ont été intégrés avec un petit guide. On peut tout à coup, face à un mur blanc, imaginer ces bâtiments et leur histoire, leur passé, où ils se situaient, leur matérialité.
Jankelevici, de son vidal Jankelevici, a voulu instaurer une série de choses.
Pierre Henrion.
Une ASBL, une fondation et un prix. Et lui-même dédicace ce prix à une intégration à l'architecture et à l'urbanisme, sans donner plus de précisions. Et c'est en 1997, avec Jean-Patrick Duchesne, qu'on a fixé les modalités d'un prix qui sera triennal et qui récompense une intervention intégrée réalisée dans les 5 ans précédant le prix. Donc le premier prix décerné en 1997 récompensait des œuvres réalisées entre 1992 et 1997. On en est aujourd'hui à la 6e édition et c'est l'œuvre de Simon Boudevin pour le musée de Moucron en collaboration avec le bureau V+. On a intégration totale avec le bureau V+, qui a été récompensé.
Le bâtiment qui vous a laissé la plus grande mémoire d'émotion, quel était-il ?
La ferme Renard, qui était dans des champs plutôt isolés, qui avait une forme assez typique des fermes de la région, avec des canaux autour, organisés comme ça autour d'une cour centrale, qui s'est retrouvée rattrapée par des bâtiments industriels qui avançaient, une grande entreprise de frites congelées qui a avancé ses hangars petit à petit. Elle s'est retrouvée complètement isolée parmi ces grands bâtiments en tôle jusqu'à disparaître. Ce qui est amusant, c'est qu'on a pu en récupérer les briques, mais aussi le dernier occupant de cette ferme travaille maintenant pour le musée et pour la ville.
Le prix repose sur le travail de 3 rapporteurs qui, pendant 2 ans, effectuent des recherches essentiellement sur l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique. Donc on repère 50 à 60 projets d'intégration à l'architecture, à l'urbanisme, où les 3 rapporteurs sélectionnent 10 à 15 projets. Plutôt 15 projets que 10, et un jury de spécialistes va désigner le lauréat parmi ces propositions-là.
Les démolitions ici que j'ai pu voir ont été motivées par différentes choses, parfois par la promotion immobilière.
Je suis un des 3 rapporteurs et c'est moi. J'étais très content qui ait repéré l'œuvre de Simon, qui est une œuvre qui a été réalisée dans le cadre du décret du 1% de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on a quand même une méthodologie. On commence par regarder tous les projets qui ont pu être réalisés dans ce cadre-là. Et celui-là m'a convaincu d'emblée.
De faire de ce travail une occasion de documenter au fur et à mesure la disparition des bâtiments qu'on démolit au fur et à mesure qu'on en construit un.
Je crois qu'il y avait vraiment une conjonction de choses qui fait que c'était un lauréat possible d'emblée. J'ai bien senti, j'ai monté ça avec 6 dossiers, que celui-là avait quelque chose de très juste. Évidemment, il y a une relation directe entre les années que Simon a passées auprès de Giuseppe Pennon et cette façon de travailler, des objets qui conservent la mémoire, avec quelques différences sur l'essence des choses, sur le rapport avec la nature, sur une participation peut-être plus active ici que celle parfois qui est plus sensible et plus analytique chez Pennon, mais c'est clair que la filiation, elle est consciente dans l'esprit de Simon quand il développe son travail, quand il l'explique. Simon est enseignant à l'École nationale du paysage. Quand il explique cette pièce-là, il fait référence directe à Pennon. Il dit, voilà, je suis l'élève de Pennon, et il y a toute une série de parallèles à établir entre nos travaux, évidemment.
Simon Boudevin.
Ça demande pas mal d'obstination, comme artiste, de poursuivre un projet comme celui-ci. En général, on attend d'un artiste qu'il apporte une contribution visible, plutôt ostentatoire dans la ville. Souvent choisi par des élus qui veulent qu'on fasse briller leur mandat. Et moi, je ramène des palettes de vieilles briques 5 ans avant la construction du musée. Un livre qui décrit la ville qu'ils n'ont pas forcément envie de voir publié, mais en fait... Au final, tout le monde a trouvé le projet naturel, et de voir qu'un projet aussi conceptuel, en fait, et si peu visible, puisse être recevoir un prix d'art contemporain, ça montre qu'il y a une évolution dans la conception de tout le monde, de ce que peut être la contribution d'un artiste dans la ville.
À vos yeux, Pierre Henrion, ce qui fait la qualité du projet, c'est... Pourrait-on dire le musée dans le musée, la mémoire dans la mémoire ?
Il y a ça. dans ce projet-là, qui est vraiment extraordinaire. Hein, c'est-à-dire la façon dont il a travaillé avec les architectes. C'est aussi une œuvre qui se réalise sur 5-6 ans. C'est une œuvre qui a du sens par rapport à la collection, c'est une œuvre qui a du sens par rapport à l'architecture. La proposition est aussi très risquée, on ne voit rien. C'est une œuvre invisible. C'est surtout le fait de savoir qu'elle est là, même si elle n'est pas visible. Quand je regarde la grande façade, je vois les usines flammes, puisqu'elle est constituée des matériaux de l'usine flamme. Cette question du troisième œil sur lequel a travaillé Simon, qui est mise en œuvre de façon magistrale, je trouve, ici, et en parfaite collaboration avec les architectes. Et ce n'était pas une œuvre facile à faire, ni du point de vue technique, ni du point de vue de la proposition. Hein. Beaucoup de gens s'attendaient à voir une sculpture.
De l'idée de départ d'agrandir simplement le musée ancien, avec des bureaux, des sanitaires et un petit hall d'accueil.
Véronique Van de Poort.
Ça nous a permis de rencontrer des bureaux d'architecture avec une vision, je vais dire, européenne, des bureaux à la Cosmopolite sur Bruxelles, Paris, Liège, Anvers.
Il y a eu ce choix de quelque part un peu révéler ce qui est un peu le côté un peu caché. Hein. Quand on voit un bâtiment, on a l'impression qu'il a toujours été clair et lisible dans la tête des concepteurs ou des autorités. Ici, on voit que c'est tout un processus pour aboutir à ce projet.
Donc, ça nous a vraiment ouvert l'esprit par rapport à ça, par rapport à l'architecture contemporaine, par rapport au travail en équipe d'auteurs de projets, où dès le départ, il y avait des architectes, des scénographes, des ingénieurs, des paysagistes, un artiste aussi. Et c'est vraiment le dialogue, je veux dire, très étroit de toute cette équipe. J'ai eu la chance d'avoir été mêlée aussi donc à ce dialogue qui a fait en sorte voilà, qu'on a le résultat d'aujourd'hui.
À la fois le processus de concours d'architecture, où on voit que de cette demande initiale de faire une extension au musée existant, il y a eu des pistes complètement différentes, des attitudes complètement différentes. Donc on voit la manière dont les architectes, quelque part, s'approprient et donnent une forme très contrastée, finalement, à une demande qui était la même pour tout le monde, un cahier de charges qui est le même pour le monde, un menu qui est le même pour tout le monde. Et l'autre partie de l'exposition, on a ramené une partie d'une exposition du travail de V+, qui avait été montré à Beaux-Arts il y a 3 ans. Et donc c'est la partie qui concerne le musée et qui monte un peu la cuisine interne du bureau. Tout le processus de conception qui part du concours jusqu'à aboutir à des détails techniques, à des choix graphiques, des choix de matérialité, jusqu'à montrer des morceaux du chantier en train de se faire. Et donc ça permet aussi de donner une sorte d'épaisseur, de compréhension à ce bâtiment qui est maintenant enfin finalisé après de longues années.
Alors dans un sens, parfois les scénographes qui viennent de Paris, c'est le bureau Projectile, tiré vers quelque chose de très esthétisant et de plus pompeux. Et moi, j'étais parfois là pour les freiner aussi en disant « Oui, mais il faut quand même que ce musée soit quand même en adéquation avec le territoire, avec les collections. » Et finalement, je crois qu'on a trouvé un super beau compromis entre un très beau bâtiment d'architecture contemporaine, une scénographie novatrice, mais qui reste comme ça... très humble, une architecture qui reste quand même domestique avec des matériaux simples, une scénographie aussi très douce, vraiment pas tape à l'œil, mais surtout tape à cœur. Et c'est ce qui était important aussi pour moi, c'était de garder l'identité culturelle de la ville, de tous les donateurs qui nous avaient donc donné toutes ces collections, toute l'histoire autour de ces collections. C'était important de le faire comme ça, et je pense que maintenant tout le monde est heureux du résultat.
Y compris dans l'intégration de l'œuvre d'art, qui est une espèce de musée, on dirait.
Pour moi, les grands succès du projet, c'est d'avoir réussi ce pari de l'intégration de l'œuvre d'art, qui est toujours très complexe. Ça finit souvent avec une œuvre d'un artiste déposée devant un bâtiment, ou un travail de couleur. Ici, l'artiste Simon Boudvin, il a vraiment fait un travail du début du projet jusqu'à aujourd'hui, avec une sorte d'épaisseur conceptuelle très intéressante, puisqu'en effet, c'est un projet qui est à la fois un travail sur la mémoire, puisqu'il a collecté des briques de 8 bâtiments qui ont été démolis pendant la construction du musée, donc des bâtiments assez communs, mais qui sont un peu à l'image de ce qui est montré dans le musée. On les a mélangés, disons, avec des briques neuves sur la façade, et il a fait tout un travail, disons, d'archivage, disons, des sources de ces bâtiments, et ils ont été classés, disons, par bâtiment sur la façade. et ils sont marqués ou étiquetés sur la façade. Et donc il y a un mélange de respect de ce patrimoine, aussi de prise de position politique, puisque tout à coup, faire intégrer des briques de bâtiments démolis pendant la construction dans un bâtiment sur le patrimoine, des bâtiments souvent démolis par les autorités communales elles-mêmes, il y avait quelque chose de quand même une dimension extrêmement politique.
Pour caricaturer, je dirais qu'il y a peut-être deux grandes familles d'artistes, il y a des artistes d'atelier qui développent
Simon Boutefin.
Une recherche spéculative de composition, de formes, de couleurs, en lien avec l'histoire de l'art, et qui explorent et qui développent dans l'espace de leur atelier, dans leur espace mental, une variété dont je suis très friand, mais dont je ne fais pas partie. Je ferai plutôt partie de cette seconde famille d'artistes qui travaillent dehors, comme des photographes. Même si je fais aussi de la sculpture, c'est une sculpture que je fais toujours documentaire. Donc travailler dehors, ça veut dire c'est un travail d'attention aux différents territoires et à ces différents acteurs, et essayer de se glisser dans les dynamiques et de voir comment on peut rendre les choses lisibles et visibles. Parce que finalement, là, ma contribution, j'invente rien. Récupérer des briques pour reconstruire. Déjà on sait que les déchets c'est une invention nouvelle, et en construction le gravat aussi, et toutes les histoires de remploi de matériaux font le bonheur des historiens qui vous font visiter Rome ou n'importe quel château. C'est aussi une pratique vernaculaire existante. Tout le monde a dans son arrière-cour de ferme ici de sa maison un vieux tas de briques pourra peut-être un jour servir.
Tout le monde est heureux d'avoir écouté l'autre, d'avoir aussi eu l'écoute nécessaire, de s'être repositionné par rapport à ses idées de départ. Et on verra, on va ouvrir maintenant au public, on verra aussi, le sentiment du public par rapport à ça. Bon, il y a quand même déjà quelques personnes qui sont rentrées dans le bâtiment. Tout le monde est particulièrement étonné par rapport au musée d'avant. Et je le vois dans le regard des gens, je vois ses yeux qui s'ouvrent, qui brillent, et je vois cette bouche aussi qui sourit sans rien dire. Je comprends finalement que le résultat plaît.
Réouverture des musées du folklore à Moucron.
On est parti sur un bois contemporain qui est un triplique, qui est un bois de construction, qui est le même type de bois que celui qui est utilisé pour l'architecture, pour tout ce qui est plan. On n'est pas tout à fait sur la même essence, on est sur une essence un tout petit peu plus noble. Et puis sur des vernis qui sont aussi des vernis qui sont spécifiques pour la conservation préventive, pour pas qu'on ait de migration, d'alcalins qui vont altérer des matériaux. Donc on est parti sur ce bois-là et sur un assemblage en équerre, une étagère. Simple.
Et moi j'avais simplement établi un programme très simple. J'ai besoin de 400 mètres carrés d'exposition temporaire, j'ai besoin de 200 mètres carrés d'exposition permanente, j'ai besoin de 3 km linéaires d'étagères pour mon centre de documentation, un hall qui puisse accueillir 40 personnes, des bureaux pour 10 personnes. Donc un programme très simple et puis c'est tout.
Cet assemblage en équerre nous permet justement de décrocher aisément les objets. On n'a pas de trou apparent. On vient juste enlever notre étagère, et si on doit la remplacer par une autre, c'est facile. On est sur un produit qui est industriel, donc si demain on veut en refabriquer une vingtaine, il n'y a aucun souci. C'est un produit à la base qui est fait pour faire des volets extérieurs, juste à découper. Donc on est sur des choses qui sont costaudes, pérennes, et puis après on a joué avec quelques petits détails d'assemblage, des vitrines qui sont incrustées dedans, mais toujours dans une simplicité.
Donc à ce moment-là, on a lancé le marché de services d'architecture. Donc là, il y a une publication européenne qui se fait. Et dans cette publication, on demande de constituer une équipe complète d'auteurs de projets, c'est-à-dire des architectes, des scénographes, des paysagistes, des ingénieurs en technique spéciale. Et alors, il y a aussi une part pour l'intégration d'œuvres d'art là-dedans. Quand on a publié, on a eu 19 dossiers de candidature. Voilà, il paraît que c'est beaucoup pour un marché de services d'architecture, pour construire un musée en plus, c'est quand même quelque chose d'assez rare.
Et l'autre élément, c'est le podium qui nous sert de mise à distance.
On en a sélectionné 5 avec le comité d'accompagnement. Donc le comité d'accompagnement, 15 personnes, 5 représentants de la ville de Moucron, maître d'ouvrage, 5 représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture, infrastructure culturelle, patrimoine culturel, musée, et 5 experts extérieurs des architectes. Le choix finalement du projet de V+ Projectile, c'est le choix du comité d'accompagnement qui a été réalisé au moment des pré-esquisses. Donc on avait sur les 19 candidatures, on en a retenu 5. Et les 5 bureaux d'architecture avaient présenté une maquette des plans A0 et leur intention globale par rapport au petit programme que je leur avais donné. Et c'est l'exposition temporaire là, qui est visible sur le côté. Donc on a vraiment, je vais dire, des propositions, mais très différentes.
L'autre élément qu'on a utilisé pour la signalétique, c'est aussi le bois, directement imprimé. On ne voulait pas ramener de touches colorées, vraiment. On voulait juste ramener un peu de diversité graphique sur les murs. Et donc tous les textes de salle sont imprimés directement sur des panneaux en bois avec un peu de couleur, avec une typographie contemporaine, mais qui s'inspire d'écriture à la main. Tous les cartels sont très simples, on est sur de l'impression, puisque tout doit être renouvelable. Donc on est sur vraiment cette idée d'un musée qui est vivant et qui va vivre dans les prochaines années.
Hervé Boutet.
Le plus possible.
On est particulièrement fiers du résultat. Les architectes V+, Thierry De Kuyper et son équipe ont fait un travail, je pense, remarquable.
Chantal Dassonville disait toujours, il ne faut pas donner trop d'informations parce que vous allez les aiguiller pour vous faire plaisir. Et voilà, ils vont faire un programme et ils vont laisser de côté finalement leur créativité architecturale. Donc on a 5 projets différents, 2 grandes tours dans le fond de la cour de l'académie, et alors 3 projets qui prennent profit du jardin. Donc la ville a été propriétaire du jardin Lenoir, ici 1 hectare où il n'y avait aucune affectation, il n'y avait rien, c'était presque un terrain vague, je veux dire. Quoi. Il y avait un petit pavillon à l'intérieur et puis un jardin qui n'était plus entretenu. Et forcément, pour l'intégration d'œuvres d'art, au moment du choix de V+, c'était pas encore défini. Mais à la suite des réunions pour faire évoluer le projet jusqu'à l'avant-projet, on avait dit la façade est peut-être un peu mode, un peu convenue, il faudrait lui donner un caractère encore plus fort. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire une façade qui intègre des briques anciennes avec des briques neuves. Parce que pour les auteurs de projets, et quand je m'étais aussi promenée en ville avec eux, j'avais beaucoup discuté avec eux, ça les avait marqués qu'on démolissait le patrimoine de Moucron, on démolissait les usines, on démolissait des maisons ouvrières, des fermes et tout ça. Ils disaient, mais pourquoi il n'y a pas de réhabilitation ? Ben, c'est vrai, comme je disais, Moucron, avec son patrimoine aussi architectural, c'est un lien un peu particulier parce qu'on est un village, donc notre patrimoine, je veux dire, architectural, il date de la fin du 19e. Et peut-être qu'on n'est pas assez sensible à l'importance de ce patrimoine. Et puis, on est une région quand même assez convoitée aussi. Donc, pour les promoteurs immobiliers, super intéressant d'acheter des vieilles maisons et de construire des petits immeubles à appartements. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer sur Moucron. On est un petit peu la périphérie de l'île. Les loyers sont moins chers, les quartiers sont plus agréables. Et forcément, donc voilà, une maison unifamiliale devient un immeuble avec une huitaine d'appartements.
Les scénographes de Projectile ont fait également un travail assez important de réinterprétation de ce que c'est un musée du folklore, parce que ce n'est pas tout à fait évident. Un musée du folklore, ça peut apparaître comme parfois une thématique peu actuelle. Mais je pense que vous verrez à l'occasion de la découverte de ce qui a été mis en place combien en réalité cette thématique peut être rendue accessible à toutes les personnes, quel que soit l'âge, la conscience de ce que c'est le folklore. Je pense qu'il y a vraiment une mise en scène qui est tout à fait remarquable. En tout cas, quand j'ai eu l'occasion de faire la visite avec évidemment le privilège d'être guidée par Véronique Van de Voorde, j'ai été tout à fait impressionnée par la mise en scène de cette thématique. Et puis le jardin, évidemment, qui est en lui-même un musée, hein, puisque de manière thématique, il participe à la mise en valeur de ce qu'étaient les traditions de ce coin de la Wallonie. Donc moi, je suis particulièrement fière Et d'être là aujourd'hui, c'est évidemment un beau moment. Merci.
Architecture, réouverture du musée du folklore à Moucron, par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture. Avec Véronique Van de Voorde, conservatrice. Thierry Duquepper, architecte, agence V+. Hervé Boutet, scénographe, agence Projectile. Simon Boutevin, artiste. Ainsi que Pierre Henrion et Chantal Dassonville. Réouverture du musée du folklore à Moucron.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.